Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Je vous souhaite la bienvenue dans Les Aventuriers de l'Étrange. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver et de retrouver mes deux comparses qui m'épaulent à chaque fois qu'une émission est consacrée à vos témoignages. On va commencer par Renaud Évrard qui appartient au groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Renaud Évrard, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Renaud, vous le savez, nous sommes vendredi soir, mais tout le monde n'a pas encore terminé ses courses de Noël. Moi le premier d'ailleurs, je n'ai même pas encore commencé. Il reste donc quelques cadeaux à faire, des idées que l'on n'a pas forcément. Donc je vous ai demandé de venir avec sous le bras un, deux, voire trois livres à recommander à ceux et celles qui nous écoutent pour se faire un cadeau, pourquoi pas, ou faire quelques cadeaux. Combien en avez-vous amené ?
Bibliothèque, quoi.
Non, vous dites ça parce que on en discutait hors antenne avant le début de l'émission. Pierre Macias, lui, est venu avec une bibliothèque. Pierre, bonsoir.
Bonsoir, Louis.
Pierre Macias, du site psylande.org, où je profite d'ailleurs de la citation de psylande.org pour vous rappeler que vous y trouvez à télécharger ou à écouter en podcast toutes les émissions des Aventuriers de l'Étrange. Pierre, quand je dis que vous êtes venu avec une bibliothèque, je mentais à peine.
Oh, quelques dizaines de kilos, à peine. On peut mieux faire.
Bon, très bien. Alors donc, vous l'avez entendu, des témoignages dans cette émission raccourcie, évidemment, pour cause de sport. Et ensuite, eh bien, aussi bien Pierre que Renaud nous présenteront les bouquins qu'ils ont sélectionnés et qui pourraient être une bonne idée de cadeau. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, vous le savez, c'est chez vous, ici. Vous pouvez nous appeler quand vous le désirez. 0826 300 300. Vous composez ce numéro de téléphone, vous vous orientez vers la boîte vocale des Aventuriers de l'Étrange, vous me laissez un message, n'oubliez pas de me laisser vos coordonnées, afin que je puisse vous rappeler. Et puis ensuite, eh bien, vous passez à l'antenne pour que Pierre et Renaud puissent répondre à toutes vos questions, ou au moins, si ce n'est une réponse, au moins apporter des éclaircissements. C'est parti.
Les Aventuriers de l'Étrange, Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Soirée spéciale consacrée à vos témoignages, vous le savez, avant que Pierre Macias et Renaud Évrard ne vous proposent des idées de cadeaux, de livres donc, qui traitent de sujets paranormaux. Premier témoin qui vient nous rejoindre, enfin témoin pas tout à fait, il s'agit de Franck. Bonsoir Franck.
Bonsoir Louis.
Merci de venir nous rejoindre dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Pierre Macias est à mes côtés.
Bonsoir Franck.
Bonsoir Pierre.
Et Renaud Évrard qui est également en notre compagnie.
Bonsoir. Bonsoir Renaud.
Alors Franck, vous m'avez envoyé un email. J'ai également transmis les photos que vous avez eu la gentillesse de nous envoyer à Pierre Macias et à Renaud Évrard. Un email donc à propos des orbes. Quelle est votre opinion à ce sujet?
Moi je pense c'est un phénomène courant, puisque j'en ai très souvent sur mes photos. Mmh. Ce sont des petites taches blanches qui apparaissent lorsque je prends des photos avec mon appareil numérique, et surtout lorsque je les prends avec le flash.
En revanche, vous n'en avez jamais constaté avec un appareil argentique, c'est-à-dire avec une pellicule.
Oui, tout à fait. Non, j'en ai jamais eu sur mes photos avec un appareil avec pellicule.
Mmh.
Oui. Et j'ajouterais aussi que lorsque je prends des photos en extérieur, je n'en ai jamais également avec mon appareil numérique.
Ouais. Là, ça commence à devenir intéressant. Et vous avez pris des photos de votre maison de famille.
Oui, tout à fait.
Qui est en vente. Racontez-nous ça.
Oui. C'est la maison dans laquelle nous avons vécu avec mes parents pendant 30 ans. C'est une maison avec un petit magasin au rez-de-chaussée. Et à l'âge de la retraite, mes parents ont mis en vente cette maison, qui n'est toujours pas vendue d'ailleurs. Elle est en vente depuis 3 ans.
Très belle maison du reste. Hein. J'ai vu pas mal de pièces jolies Elle est dans les Deux-Sèvres.
Elle est dans les Deux-Sèvres. Oui, c'est une jolie petite maison dans une petite ville de 5000 ouais. habitants. Ouais. Mais malheureusement, il n'y a pas de repreneur pour le moment.
Ouais.
Donc, ça fait 4 ans maintenant que cette maison est vide. Donc, elle n'est pas chauffée. Il y a de l'humidité. Elle se dégrade petit à petit. Moi, j'ai l'habitude, lorsque je descends, parce que je vis à Paris, lorsque je descends en vacances chez mes parents, qui maintenant sont installés dans un petit village à une quinzaine de kilomètres de cette maison, j'ai l'habitude d'aller faire un petit peu de ménage, d'aller me ressourcer dans ma maison, quoi, dans cette maison vide. Et il y a un an et demi, je me suis dit, pourquoi pas prendre des photos pour avoir un souvenir de chacune des pièces
ouais.
de cette petite maison. Donc j'ai pris une centaine de photos. Je ne les regarde pas tous les jours, bien sûr, parce qu'elles n'ont vraiment d'intérêt que pour moi. Hein. Ce sont des pièces vides.
Mm-hmm.
Voilà. Et à l'écoute de votre émission, il y a 3 semaines, c'était Magali, je crois, hein, qui intervenait, qui racontait qu'elle avait des orbes sur ses photos. Je me suis dit, moi aussi, j'en avais remarqué un sur une de ces photos de cette maison. Donc je les ai passées en revue toutes, et je me suis aperçu qu'une dizaine comportait des orbes. Donc voilà, je me suis dit, je vais les envoyer à M. Benigni.
Et je vous en remercie, vous avez très bien fait, mon cher Franck. En revanche, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que à l'extérieur, vous n'avez pas d'orbes sur vos photos, d'accord, numérique, hein, je parle. Quand vous preniez des photos argentiques, pas d'orbes non plus. Mais dans cette maison qui représente quelque chose d'important pour vous, c'est quand même votre maison de famille, la maison de votre enfance.
Oui, tout à fait.
Qui est maintenant vide depuis 4 ans. Vous étiez seul hein, lorsque vous avez fait le tour de cette maison pour prendre quelques photos.
Oui.
Donc on imagine une certaine émotion tout de même lorsque vous avez pris ces photos. Ou pas?
Franchement,
non
pas d'émotion particulière.
Mm-hmm.
On a toujours des souvenirs qui remontent en mémoire, mais pas d'émotion particulière, non.
Oui. Et vous avez donc constaté que sur ces photos, vous aviez des orbes. Est-ce qu'il y a d'autres photos, hormis celles de votre maison, où vous avez des orbes également?
Pour vous dire la vérité, hier soir, j'ai pris, dans mon petit appartement parisien, là, j'ai pris 2-3 photos.
Oui, attendez, très bonne expérience, au contraire. Alors
j'avais entendu dire que ça pouvait être des petites particules d'eau qui se trouvaient dans l'air.
Oui.
Donc, vous savez, il existe ces petits vaporisateurs d'eau minérale.
Mm-hmm.
Donc, j'ai un petit coup de vaporisateur dans la pièce et j'ai pris une photo sans me poser. Et une photo avec cet appareil là, numérique avec flash.
Oui.
Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. En revanche, 10 minutes après, j'ai fait un autre essai. J'ai un grand rideau bleu marine devant ma fenêtre. J'ai fermé le rideau et j'ai pris une série de photos, une dizaine. Et je me suis dit, si j'ai des orbes, je vais tout de suite les voir apparaître sur ce rideau. Eh bien, sur 10 photos, j'avais 4 photos avec des orbes.
Bon. Votre conclusion à vous, ce serait quoi?
Ma conclusion, je pencherais plutôt pour un défaut, une anomalie provoquée par ces appareils numériques. C'est un appareil, un petit appareil grand public, 5 mégapixels.
Mm-hmm.
C'est vraiment un petit appareil.
Oui, donc absolument rien de paranormal.
Non, pour moi non, franchement...
Bien.
Non.
Je me retourne vers Renaud Évrard. Renaud, votre opinion.
Bon, ça peut effectivement être peut-être une anomalie de l'appareil. Bon, on n'en a pas le descriptif, mais ça me paraît pas forcément la solution la plus jouable, vu qu'il y a des photos tout à fait normales. Si des anomalies apparaissent de façon aléatoire, c'est quand même déjà un peu bizarre. Il faut savoir que le phénomène des orbes se produit pour plusieurs raisons très variées. Il n'y a pas que des particules blanches ou des particules d'eau en l'air, mais des micro-poussières, selon des orientations très particulières, ou pas, reflètent le flash, la lumière, de façon qui crée ces petites impressions de flocons de lumière sur la photo. Donc là, quand on était dans la maison, bon, même si vous faites le ménage, elle est quand même à l'abandon depuis 4 ans, c'est quand même une maison qu'on dirait poussiéreuse, quoi. Et donc, il y a des forts risques, mais l'expérience peut se refaire, hein, d'obtenir comme ça 10% de photos avec des orbes,
ouais,
selon les orientations. Et bon, chez vous, vous fermez le rideau, ce qui dégage à la poussière.
Oui, c'est vrai.
Et ça peut aussi expliquer les 40% de photos avec orbes que vous obtenez.
Mmh.
Alors, effectivement, c'est la solution que vous avez essayée, c'est très bien votre démarche d'avoir fait des tests avec le vaporisateur d'eau, par exemple, mais ce n'est pas forcément toujours concluant. C'est peut-être des gouttes qui sont trop grosses par rapport à ce qui peut refléter la lumière, ou alors, en tout cas, je ne suis pas vraiment spécialiste au niveau technique, mais il y a des protocoles qui ont déjà été mis en place. On peut artificiellement reproduire ces orbes, et je pense que Pierre Massès pourra nous en parler un peu plus, quoi.
Oui, Pierre.
Oui, effectivement, plusieurs personnes ont reproduit ces orbes, avec beaucoup d'orbes sur les photos, mais typiquement en allant dans un grenier, en agitant un tapis poussiéreux.
Oui, là,
et puis là, bon, ben, il y en a plein le grenier. J'ai moi-même refait, la manip à la maison. J'ai eu l'occasion de prendre quelques photos à l'intérieur de chez moi, j'ai pas eu d'orbe. J'ai pris un plumeau que j'ai agité. La première fois, j'ai pas eu d'orbe. Les fois suivantes, j'en ai eu. Alors,
comme deux, quoi, c'est trois. Propre, hein,
c'est, bah, disons, en tout cas, il faut agiter le plumeau. et ces orbes, on peut les reproduire de cette manière-là. Bon, ça va être des particules de poussière. Ça peut être aussi des gouttelettes d'eau peut-être plus fines que celles générées par un pulvérisateur. Il y a aussi les conditions d'éclairage qui doivent être très très importantes, dont les conditions sont très importantes, c'est-à-dire sous un certain éclairage, on n'aura pas d'orbe parce que les poussières, parce que les gouttelettes ou parce que l'objectif de l'appareil photo ne sont pas éclairés sous le bon angle. Par contre, sous un angle différent, on aurait eu des orbes, parce qu'on peut reproduire des phases suivantes. Donc tout ça peut être poussière, eau, appareil photo aussi.
Ou pollen, ou l'appareil photo.
Y a pas mal de photos de ce genre-là, c'est-à-dire qu'avec les orbes, il y a aussi assez souvent, associé aux photos d'orbes, on associe aussi assez souvent des photos de voiles blanchâtres, hormis quand c'est la personne qui fume qui prend la photo. Ça peut être aussi des problèmes d'incidence de la lumière sur l'objectif. Il y a aussi des appareils qui ont des caractéristiques, je vais dire, pas des faiblesses, mais des caractéristiques qui font qu'ils vont être soumis à ce genre d'anomalies, plus souvent que d'autres. Il y a des appareils photo comme ça qui ont été, ou des montages d'optiques, de lentilles qui ont été repérés. Et puis enfin, dans les photos, et en particulier, les photos de Franck ressemblent tout à fait aux photos que j'ai pu obtenir, hormis que j'ai eu un orbe rose. Je suis très content. Ça fait joli au milieu de tous ces blancs. Ils ont une forme, qui n'incite pas à entrevoir, qui ne m'incite pas personnellement, en tout cas, à entrevoir quelque chose de paranormal en tant que tel, de psy ou même de survivance. On voit des taches donc blanchâtres qui ont l'air d'être formées par des cercles concentriques. Et on retrouve ça sur plusieurs photos, et c'est ce genre de tâches formées de cercles concentriques, ça me paraît être typiquement de la poussière.
Ah oui, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire, je vais faire le tour de tout le monde, que le dossier Orbe est classé jusqu'à plus ample information, mais a priori, on le classe dans les phénomènes absolument pas paranormaux. Pierre Massias ?
Rien ne m'incite à faire ça, même si les gens éventuellement vont voir un visage, parce qu'on nous l'a déjà dit, ils vont voir un visage éventuellement dans cette tâche. Là, on peut se ramener à des problèmes de psychologie tout à fait banaux, connus, qui vont faire qu'on va... D'ailleurs, on en reparlera avec les bouquins, qui font que on voit un visage, on associe un visage à quelque chose qui n'a pas, en fait, pas de forme.
Oui, nous sommes d'accord. Renaud Évrard, votre avis, le dossier des orbes peut être refermé. jusqu'à une prochaine fois, sans doute, si quelqu'un apporte un élément intéressant.
Que la prochaine fois, ça va être la traduction de, des ouvrages, des travaux qui sont faits en langue anglaise, par exemple, sur la question, qui sont pas encore connus, mais qui le seront sûrement un jour, ou qui le sont déjà un peu sur Internet, quoi. Mm-hmm. Mais effectivement, moi-même, je les ai pas encore lus, et donc je suis au même stade que vous à classer, pour l'instant, ouais, le dossier.
Oui, à classer sans suite. Franck, votre opinion là-dessus ?
J'ai bien peur aussi qu'il faille classer sans suite le dossier. Malheureusement, mais je crois que c'est un phénomène vraiment courant et qui arrive à tout le monde. J'en ai parlé aussi autour de moi. J'ai, ouais, j'ai des amis qui m'ont dit, j'en ai aussi sur mes photos de temps en temps.
D'accord, donc rien de particulier finalement. Parfait.
Non, bon.
Merci Franck en tout cas d'avoir participé à cette réflexion de manière très active.
Et tout puis, plaisir était pour moi.
Vous êtes comédien, je sais, vous êtes sur les planches ce soir, donc je vous dis le mot en cinq lettres évidemment.
D'accord. Je prends.
Merci Franck, à bientôt.
À bientôt Louis.
Au revoir.
Au revoir.
Dans quelques instants, un autre témoignage, celui de Micheline qui, vous allez l'entendre, a vécu des choses particulièrement étrange dans une maison où elle a aménagé avec sa petite famille. Elle nous racontera ça. Elle a également utilisé la prière pour passer le feu avec succès. Elle nous racontera ça également. Et puis, un troisième phénomène paranormal qu'elle a vécu. Et enfin, tout à l'heure, j'ai oublié de vous en parler lors de la présentation. Je recevrai, enfin, j'ai fait l'interview, donc on l'écoutera ensemble, du rédacteur en chef d'un nouveau magazine qui va sortir dans vos kiosques, ce sera un bimestriel. Il va sortir dans vos kiosques le 3 janvier. Ça s'appellera Science et Inexpliqué. Nicolas Montigiani sera notre invité.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Après le dossier des orbes qui est désormais classé dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous allons retrouver le témoignage de Micheline. Bonsoir Micheline.
Bonsoir.
Merci de venir nous rejoindre dans Les Aventuriers de l'Étrange. Vous le savez, Pierre Massias est à mes côtés.
Bonsoir Micheline.
Bonsoir.
Et
bonsoir à vous.
Également Renaud Évrard qui est à mes côtés également.
Bonsoir. D'accord. Bonsoir, oui.
Alors, ma chère Micheline, on va commencer par le début, comme dirait l'autre. Vous avez fait de la demande, comme énormément d'auditeurs et auditrices, pour
voilà,
recevoir.
Suite à votre émission,
voilà,
oui.
Pour recevoir le secret pour passer le feu. Et vous l'avez utilisé.
Et oui, voilà.
Alors,
c'est ma petite fille. Mmh. Elle a eu la bonne idée d'aller mettre sa main, ses doigts sur la porte de l'insert.
Ah, oui, c'est chaud.
Voilà.
D'accord.
Donc, elle avait tous les petits doigts brûlés, on va dire.
Ouais, ouais.
Et puis, bon, bien sûr, elle pleurait et tout ça. Et je n'ai pas eu le réflexe immédiat. Je ne pensais pas du tout à la prière à ce moment-là, parce que je l'avais commandée une semaine avant, quoi.
Mmh.
Et donc, j'avais essayé de la mettre au lit, elle hurlait, elle pleurait, on voyait qu'elle souffrait énormément. Et c'est ensuite que je me suis dit, mais mince, j'ai la prière, donc je la lui ai faite.
Ouais.
Et suite à ça, écoutez, je l'ai remise au lit, elle a dormi, impeccable. Et que lorsqu'elle s'est réveillée, bon, elle avait les doigts marqués, bien sûr,
ouais,
mais elle ne souffrait plus apparemment.
Alors,
c'était vraiment incroyable.
C'est
incroyable, hein, parce que je vous assure qu'elle était bien brûlée. Hein.
Elle a quel âge ?
Des soufflettes, là, comme on dit.
Ah oui, d'accord, oui.
Ah oui, oui. Hein.
Mais elle a
et
quel
elle
âge
n'en a plus souffert. Je pouvais les lui toucher, rien. Elle n'avait plus mal.
Oui. Elle a quel âge, votre petite fille ?
Elle a 16 mois.
Ah oui, c'est un tout petit bout de chou,
ah oui, c'est un petit bout de chou, oui, 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 oui.
Ouais. Et ça l'a calmée rapidement, une fois que vous avez utilisé ce secret ?
Ah oui, ah oui. Mm. Dans les 10 minutes, ça a été calmé, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Oui, oui.
Bon, bah, écoutez, si ça marche, réessayez-la à nouveau la prochaine fois. Enfin, utilisez-la
oui, en
à nouveau.
En espérant que non, qu'elle n'ira pas remettre
non,
les mains sur
ouais,
la scène.
Non, il faut éviter.
Mais...
oui, 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 oui. Oui, si on peut éviter, ce serait mieux quand même. Là,
voilà, oui, oui.
Bon.
Non, mais je la garde maintenant à disposition. Hein.
Bon, très bien. Ma chère Micheline, vous avez vécu quelques phénomènes paranormaux.
Oui.
On en a parlé lors de la préparation de votre intervention. Vous m'avez dit que vous aviez vécu des choses un petit peu bizarres quand même.
Un petit peu bizarre, oui. Dans un appartement dans lequel j'emménageais. Le jour même où j'ai emménagé, donc j'ai eu l'une de mes filles fracture du crâne. Sur l'intervalle où ma fille était à l'hôpital, alors qu'elle n'avait que 23 mois par là,
ouais,
mon mari a dû être hospitalisé, péritonite, enfin, tout s'est enclenché, après il y a eu scarlatine, enfin, toutes des maladies à haut niveau, quoi.
Ouais.
Et lorsqu'à une certaine période, avec mon mari, nous sentions les rideaux, un vent froid, les rideaux bouger, tout ça. Une lumière qui s'allumait la nuit au-dessus de la télé alors qu'elle était vraiment très haute et le bouton très dur, donc on ne s'en servait jamais. Et une nuit, j'ai même vu une silhouette, mais vraiment une silhouette au pied de mon lit.
C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer ça ?
Eh bien, je me suis réveillée, j'ai senti une présence et au pied de mon lit, j'ai vu cette silhouette. Mais elle est restée un petit moment, vous voyez, je sais pas, 10-15 secondes, et puis mais... après, pof, plus rien. Donc je me suis levée, je me suis dit, mais tu as rêvé ou quoi ? Et donc, peu de temps après, nous avons déménagé parce que j'avais fait bâtir sur l'intervalle. Et c'est en discutant une fois avec un monsieur qui m'a dit, ah, mais tiens, moi j'habite en face de là où vous étiez. Il me dit, vous étiez où ? Alors je lui ai dit exactement l'adresse. Mmh. Il me dit, ah, mais vous étiez dans l'appartement où un jeune homme a été tué sur la voie ferrée, au passage à niveau.
Oui.
Et c'était à la période où nous avions eu ces problèmes-là.
Mmh. Oui.
Oui, oui.
Vous pensez qu'il y a une relation entre cette série de phénomènes de malchance, tout ça ?
Je pense, oui.
Oui.
Je pense, oui.
Revenons à cette silhouette que vous avez aperçue au pied de votre lit.
Oui.
Ça vous a réveillé en pleine nuit, vous ?
Oui,
vous
êtes... ça m'a réveillé avec une impression de présence.
Oui.
Oui, oui, hein.
Vous l'avez bien observé, enfin, observé. Je m'entends parce que en pleine
nuit. J'ai regardé, oui. Oui, vraiment, j'ai regardé. Lorsque vous vous réveillez, vous voyez au pied de votre lit une silhouette noire dressée, vraiment dressée là devant vous. Vous vous dites, mais je rêve ou pas ? Oui, oui.
Et le contour de son corps était bien défini ?
Oui, c'était défini. Oui, oui, vraiment une silhouette comme s'il y avait quelqu'un dans le noir, quoi. Oui, oui.
Plutôt homme ou femme, à votre avis ?
Alors là, non, homme. Vu l'habillement, c'est enfin la forme de la silhouette, ouais. Ça faisait plutôt penser à un homme, oui.
Ouais.
Oui, oui.
Et parlez-nous de cette lumière là qui s'allumait de temps à autre sans que personne ne la touche.
Voilà. Elle était au-dessus de la télé, vous savez, dans un angle, et vraiment cette lumière, on n'arrivait pas à y aller, quoi, très difficilement. Moi-même, j'avais du mal à y aller. Et je vous dis, plusieurs fois, je me la suis retrouvée allumée en pleine nuit.
Quand vous dites une lumière, c'est quoi ? Un abat-jour ?
Un abat-jour, oui, oui, carrément, une lampe.
Oui.
Une lampe avec un abat-jour, avec un interrupteur en forme de poire.
Oui. Et elle s'allumait comme ça de manière tout à fait incompréhensible ?
Ben oui, oui, oui.
Ce vent froid que vous sentiez, vous êtes sûr que ça n'était pas un courant d'air, tout simplement ?
Oh non, non, parce que même mon mari, ça l'avait ressenti. Alors il regardait justement et puis non, 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 et on ne voyait pas d'où cela pouvait venir.
Oui. Ça a duré combien de temps tout ça ?
Eh bien là, ça s'était passé au mois de février et donc ça ne s'est passé que durant la période d'une semaine, on va dire. Sur la période d'une semaine,
ouais.
Là.
Oui. Et après ça s'est calmé, après tout est revenu
normal. Après plus rien. Et j'ai su par la suite, donc c'était à cette période-là que le jeune homme avait été tué sur une voie ferrée.
Très bien.
Renaud... C'était l'anniversaire de sa mort et que bon...
Oui. Renaud Évrard, avez-vous des questions à poser à Micheline ?
C'est difficile. c'est étonnant, effectivement, tous les phénomènes qui arrivent au départ quand vous emménagez dans l'appartement.
Voilà, là, le jour même, je vous dis, ma fille, fracture du crâne, dans la même semaine, mon mari, péritonite.
Oui.
Ah oui, oui, hein.
Mais bon, c'est quand même, finalement, le lien n'est pas très ténu, quoi. C'est deux accidents, un accident et des maladies. Le fait d'y voir une série de malheurs extraordinaires, c'est quand même quelque chose. Oui.
Je ne pensais pas à ce moment-là qu'il y avait eu quoi que ce soit dans cet appartement.
D'accord. C'est maintenant que vous faites une sorte de
pile
annonciateur. D'accord. Très bien.
Disons que c'est une fois que Micheline a appris qu'il y avait eu ce décès dans cette
quelques
maison.
Quelques années après, vous voyez.
Ah oui, ça remontait à quelques années après
que j'ai appris tout ça, quoi.
Ah d'accord, moi il me semblait que c'était assez rapidement après.
Non, 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 non. Non, non, c'était au moins 3 ans après que j'ai appris, donc que dans cet appartement, à une certaine période, il y a eu ce baisser, quoi. Enfin.
Ouais. Ouais, ouais. Renaud, votre avis sur cette lampe qui s'éclaire de manière intempestive, ce froid un peu glacial, et puis cette silhouette qui est apparue au pied du lit.
Oui, c'est des phénomènes qui sont
le tout sur une semaine, hein, assez court.
Le tout effectivement fait penser à une hantise, mais en plus on a tout le scénario historique qui se retrouve finalement vu que les événements ont lieu à une période anniversaire et c'est quelque chose qui résonne chez beaucoup de personnes. La lumière, bon, ça arrive que des lumières s'allument, s'éteignent, il faut à chaque fois pouvoir faire expertiser finalement le processus électrique et là c'est pas trop le cas. En plus elle s'allume en pleine nuit. Je sais pas trop si ça peut être dû à un dysfonctionnement ou pas. En tout cas c'est pas quand les personnes sont présentes.
Oui.
Pour la silhouette au pied du lit, c'est vrai que c'est difficile à concevoir que ce soit une véritable apparition parce que ça semble très très flou encore.
Oui.
C'est dans le noir complet que vous semblez voir une silhouette, mais vous pouvez pas en décrire vraiment les caractéristiques. Et le fait que vous soyez réveillé par cette sensation de présence, c'est un signe qui est assez ambigu, parce que des gens me rapportent ça fréquemment, et ils ont l'impression d'avoir été réveillés justement par l'apparition de qui les regarde de l'extérieur, et c'est comme une
alerte. Oui, vraiment, quand vous sentez, vous savez que l'on vous regarde, là, vous...
Mais on peut aussi inverser et penser que c'est vraiment parce qu'il y a une projection du rêve à l'extérieur que ça réveille la personne et qu'elle retrouve finalement cette image à l'extérieur, mais parce que c'est déjà un processus annoncé au niveau psychologique ou au niveau onirique. Donc c'est un élément qu'on peut pas interpréter qui prête justement à une certaine ambiguïté là-dessus. Moi, comme question que j'aurais, c'est quand vous avez pris cet appartement ou quand vous avez déménagé là, c'est pour quelle raison? Est-ce qu'il y avait des tensions particulières
Pour que je déménage là.
Pour que vous emménagez là.
Parce que j'avais eu un enfant de plus, j'avais un petit bébé de 4 mois et l'appartement précédent était trop petit. Donc j'avais pris cet appartement, j'avais eu l'opportunité qu'il y avait une chambre de plus, donc c'était plus facile pour moi.
Et les voisins ont toujours été, vous ont jamais parlé vraiment de ces événements?
Oh non, jamais. Ben, vous savez, je ne suis pas très, on va dire, voisin, voilà, bonjour, bonsoir.
D'accord.
Oui.
Oui, personne ne vous avait tenu au courant?
Non, personne. Non. Oh non, j'étais nullement au courant, je vous dis, je n'ai appris tout ceci qu'au moins 3 ans après, oui.
Ouais, effectivement.
Et est-ce que la famille qui avait été touchée par ce deuil était encore dans les environs ou...
Je l'ignore complètement.
D'accord.
Je l'ignore complètement.
Mmh, mmh. Pierre Mathias.
Oui, c'est un témoignage que je qualifierais presque de typique. On y retrouve pas mal d'éléments. Mmh. Typiquement, c'est le... C'est le décès d'un habitant précédent de la maison.
Oui.
C'est une famille qui arrive dans un lieu nouveau, qui est confrontée à des phénomènes bizarres, qui va chercher à savoir pourquoi ça arrive, qui va pas forcément trouver la réponse ou qui va trouver la réponse de manière tout à fait au hasard, voilà, de manière fortuite, et qui va pouvoir construire comme ça une histoire, un scénario des événements, donner du sens à tout ça.
Oui, ouais. Pour moi, ça a été une explication, quoi, parce que, bon,
Mais
quand j'avais eu déménagé, je n'y pensais plus, après.
Une précision importante.
C'est sorti de ma pensée, quoi.
Bien sûr. Une précision importante, Micheline, parce que, pour éclairer la lanterne de Pierre Mathias, lorsque ça vous est arrivé, tout ça, vous n'avez absolument pas pensé à un fantôme ou à quoi que ce soit.
Ah non, du tout.
Je veux dire, à la limite, bon, la lampe, elle s'allume.
Non, ça me semble bizarre, enfin, oui, je me suis dit,
voilà.
C'est bizarre quand même, pourquoi cette lampe s'allume-t-elle ainsi. Mm-hmm. Mais je n'ai jamais pensé à un fantôme ou autre, non.
Voilà, oui. Il n'y a que 3 ans plus tard, lorsque vous avez appris cette histoire de décès.
Voilà, que je me suis dit, bon, c'est bizarre.
Voilà,
je comprends le pourquoi, surtout que l'on m'a dit, c'était à cette période-là, quoi. Ouais.
Mais vous avez tout de même eu l'épisode de la silhouette au pied du lit.
Oui, tout à fait.
Oui.
Donc là, de manière, si vous ne vouliez pas l'admettre de manière consciente, de manière inconsciente, il y avait la notion de fantôme.
Oui, ça m'a fait bizarre, puis je me suis dit, bon, mais tu dois avoir des hallucinations, c'est pas possible. Oui, mais je n'y ai pas attaché trop d'importance, vous voyez.
Mmh.
Je ne l'ai vu qu'une fois, en plus.
Je vais oser un schéma parce que on a souvent dit avec Renaud que l'apparition de manière spontanée du psy pouvait être en tout cas dans la plupart des cas une réaction à un stress, une réaction de défense. Enfin, on a quelque chose à exprimer, on peut pas l'exprimer autrement que par génération d'une faculté psy. On a dans le domaine de la parapsie, on parle aussi quelquefois au niveau du stress. Votre histoire m'a fait penser à une histoire qu'on m'a racontée du côté de Narbonne, ouais, il y a quelques années déjà, d'une jeune femme qui avait eu un accident de moto, qui s'était retrouvée handicapée pendant sa période de convalescence. Elle était de mobilité très réduite, enfin elle était vraiment très elle avait souffert physiquement, donc aussi moralement, et pendant toute la période de sa convalescence dans sa maison, elle a eu un ressenti de présence d'une vieille femme qui était une habitante précédente du lieu. C'était un vieil appartement, une vieille maison. Donc quand on est dans une situation de stress importante, on va générer générer un phénomène psy. Alors si j'osais une chronologie à votre histoire, vous rentrez dans l'appartement, vous ne connaissez rien à l'appartement.
Non, du tout.
De manière fortuite, se produisent ces deux problèmes médicaux. Ça génère au niveau de la famille nécessairement du stress.
Ah bah oui, fracture du crâne, la scarlatine, péritonite.
Vous avez un bébé de 4 mois, notre petite fille de 4 ans.
Ça j'imagine bien, oui.
Donc voilà, donc on a une situation extrêmement stressante pour les malades au niveau physique, pour vous et au niveau de la cellule familiale, au niveau psychologique. Et peut-être que cette situation vous a rendu plus réceptive on va dire, l'histoire de la maison. Que vous concrétisez en bout de course par la silhouette que vous voyez au pied du lit. Qui est concrétisée aussi dans cette semaine où les phénomènes se produisent par ce courant d'air froid et cette lampe qui clignote. Quoique on pourrait imaginer même dans ce cas-là.
Non, elle était carrément allumée, ne clignotait pas.
Enfin,
hein.
Elle s'allume, elle s'éteint de manière aléatoire.
Elle était allumée, c'est moi qui l'ai éteinte.
Elle s'allumait sans que personne ne l'allume.
Ah non, elle s'allumait sans que personne ne la touche et c'est moi qui l'éteignais.
Voilà.
Oui. J'avais eu par la suite un autre problème comme ça aussi. Donc je ne sais pas, là c'est moi qui avais eu des problèmes de santé et j'étais chez des amis, dont le mari était décédé. Et j'avais dormi dans la chambre du monsieur parce que les gens faisaient chambre à part. Et là, lorsque je me suis couchée, assez tard, je n'arrivais pas à dormir, j'avais vraiment ressenti comme si quelqu'un s'allongeait près de moi. Donc là, je me suis retournée dans le lit, vous savez, puisque j'étais seule, et là, j'ai vraiment eu l'odeur des cheveux du monsieur qui était décédé. Et alors, je me suis forcée de penser à mes enfants, aux vacances, enfin, à des choses positives, et au bout d'un moment, j'ai senti le poids vraiment se lever, s'en aller. Et ce qui fait que le lendemain soir, lorsque je me suis recouchée, j'ai emmené mes petits chiens parce que j'avais un peu d'appréhension.
Oui, j'imagine.
Et là, à peu près au même horaire, mes deux chiens se sont mis à grogner, alors qu'il n'y avait strictement rien.
Oui.
Elles ont grogné et puis après, rien ne s'est passé, donc.
Et plus rien ne s'est passé après.
Plus rien ne s'est passé, non.
Oui. Micheline, je vous propose une pause et on se retrouve dans quelques instants dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour continuer à essayer de comprendre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vécu. À tout de suite.
D'accord, merci.
Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange.
Les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio avec le témoignage de Micheline. Alors, Renaud Pierre, vous avez entendu le deuxième phénomène que Micheline a vécu. J'aimerais vous poser quelques questions, ma chère Micheline, pour avoir plus de précision. Vous étiez allongée.
J'étais couchée.
Vous étiez couchée dans le noir.
Dans le noir.
Et là, vous avez clairement...
Vraiment comme si une personne s'allongeait près de moi.
Avec le poids, le matelas qui s'affaisse, vous savez, enfin voilà quoi. Vraiment, ça vous l'avez clairement senti.
Vraiment.
Ouais.
Et je vous dis, lorsque je me suis retournée, vous savez, j'ai senti l'odeur des cheveux de ce monsieur. Mais vraiment, hein.
Oui, oui, oui. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais approfondir également avec vous. Vous dites, j'ai senti l'odeur des cheveux de ce monsieur.
Vraiment.
Vous l'avez reconnu comment, l'odeur de ses cheveux? Vous l'aviez déjà senti, je veux dire?
Oh, oui, 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 parce que nous étions très amis, donc oui. On se fréquentait souvent, et c'est vrai que, bon, c'était des paysans, vous voyez, donc ils avaient une odeur assez...
Oui.
Voilà.
Oui, 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 mais donc vous l'avez vraiment clairement identifié, quoi.
Ah oui, vraiment, là, il n'y avait pas de doute, hein.
Mm-hmm. Et ça a duré combien de temps, à partir du moment où vous avez senti ce corps comme ça s'allonger, hein, à côté de vous?
Je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 minutes, je vous dis, je me suis concentrée, je pensais à mes enfants, je pensais aux vacances, à des choses positives, et là, j'ai vraiment senti le poids, comme si quelqu'un se levait.
D'accord. Est-ce que vous avez, enfin moi je l'aurais peut-être fait, mais j'en suis pas très sûr. Est-ce que vous avez eu le courage de mettre la main à côté pour toucher s'il y avait quelque chose?
Non.
J'imagine.
Non, c'est... je ne l'ai pas fait. Non.
Ouais. Je pense que j'aurais eu peur moi aussi. Mais bon.
Oui, pas vraiment peur, non, parce que je sais que ce monsieur m'aimait bien. Vous voyez, c'est un monsieur âgé, il m'aimait bien. Ouais. Donc c'est pas vraiment peur, mais j'étais impressionnée, oui.
Oui, on le serait à moins. Et alors, le lendemain soir, d'abord, le matin, vous en avez parlé autour de vous ou...
Oui, j'en avais parlé, oui, oui. J'avais ma maman avec moi, qui dormait dans une autre chambre, et puis la veuve de ce monsieur. Donc, oui, ça avait été plus fort que moi, j'en avais parlé, oui.
Et qu'est-ce qu'elles en ont dit, alors?
Elles ont été un peu sceptiques, quoi.
Oui. Et le lendemain soir, en retournant vous coucher, toujours dans la même chambre...
Voilà, ben oui.
Là, cette fois-ci, vous êtes dit, j'emmène les chiens.
J'emmène les chiens, voilà.
Comme ça, au moins. Voilà.
Peut-être plus hérite, mais ça me rassurait.
Eh ben, écoutez, c'est tout à fait humain, en tout cas. Et les chiens ont clairement grogné?
Les deux. Les deux se sont mis à grogner, oui.
Lorsque vous avez éteint la lumière ou avant, c'était...
Oh, non, non, après. Là, j'avais déjà éteint la lumière depuis un moment, puis j'avais du mal à m'endormir, bien sûr. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, les deux chiens se sont mis à grogner.
Ça a duré longtemps, ce grognement, cette sorte de d'angoisse des chiens, ou pas?
Oh, je sais pas, une trentaine de secondes, je sais pas.
Ouais, ouais, ouais.
Vous savez, c'est difficile à calculer le temps quand c'est comme ça. Je les ai entendus grogner, moi je ne sentais rien.
Ouais.
Alors que je savais qu'il n'y avait rien autour, quoi, personne. Oui, oui.
Et après, fini?
Après, ça a été fini. Ça a été fini après. Après, parce que j'ai été restée quelques jours, j'allais me recoucher en emmenant mes chiennes.
Oui.
Et plus rien ne s'était produit.
Oui. Est-ce que, Micheline, vous êtes ce qu'on pourrait appeler quelqu'un de très sensible, qui sentait les gens ou les choses?
Oui. Ah oui. Mais je vous dis, je pourrais vous en raconter encore d'autres.
Vous avez une vraie sensibilité, quoi.
Oui. Je sens les choses, je fais souvent des rêves prémonitoires. Je sais quelquefois des choses, alors qu'on me dit, mais c'est pas possible, on ne l'a pas dit, comment tu peux le savoir?
Ouais.
Oui, oui. Un autre exemple, j'avais un cheval. Ça faisait 20 ans que je l'avais, donc rien que d'en penser. Il y a un jour, j'ai été prise d'une violente douleur au ventre. Excusez-moi.
Non, mais je vous en prie, Micheline, je vous en prie.
Et voilà. Une violente douleur au ventre, vous voyez, fulgurante. J'ai été pliée en deux. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, peu de temps après, c'est le centre équestre qui me téléphone en me disant, bon, ton cheval a des coliques, il faut faire venir le vétérinaire. Et d'ailleurs, il a fallu l'euthanasier suite à ça. Vous voyez, alors, on avait tellement de connivence avec ce cheval que je me suis dit...
Et rien ne laissait prévoir cette maladie?
Non. Ah non, non. Parce que justement, il n'avait jamais eu de colique. Il avait mangé le midi normalement. Et ça lui a pris à 1h30, l'heure où j'ai eu cette fameuse colique. Cette douleur qui m'a prise au ventre.
Quasiment.
C'est à ce moment-là que le cheval, on me l'a dit par la suite. Donc, et j'étais pas seule, j'étais en présence de ma fille qui m'a vu me plier en deux. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as, maman? Et c'est par la suite, et le jour même, il a fallu l'euthanasier parce qu'il avait... Enfin, bref.
Et... Vous avez, enfin, excusez-moi parce que je suis étonné parce que vous me racontez, ma chère Micheline, vous avez vécu la même douleur que lui au même moment, en fait.
Au même moment, voilà. Oui, oui.
Et il était distant de combien de kilomètres, ce centre équestre, de là où vous habitiez? Pardon?
15.
D'accord.
15 kilomètres.
Oui. Il s'appelait comment, si c'est pas indiscret?
Muro.
Muro, c'était un Hongre?
C'était un Hongre, oui, oui.
Ouais.
Mais c'est un cheval qui n'aimait pas trop les hommes et avec moi, il a toujours été super adorable. Mmh. Alors que c'était un cheval difficile.
Ouais, ouais.
Ouais, oui. Et on avait une forte connivence, il était vraiment...
Vous vous connaissiez, si je puis me permettre d'employer ce terme, et je pense que c'est normal de l'employer dans le cas présent. Depuis combien de temps ce cheval est vous?
20 ans.
Ah oui, effectivement, oui. Ah oui, 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 oui. 20 ans, oui.
Ah oui.
Ah oui, c'est et très oui. long, effectivement. Ouais.
Je vous dis, je l'avais monté encore le vendredi, je l'avais monté le vendredi,
ouais.
C'est arrivé le lundi.
Oui, oui, oui. Donc, tout ça pour dire que vous avez une extrême sensibilité quand même. Hein.
Oui, 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 mais je vous dis, j'en aurai d'autres, des exemples à vous donner aussi, mais ce serait beaucoup trop long là.
Dans la famille, il y a des gens qui sont comme vous, de votre côté, je veux dire. Votre mère, grand-mère, vos filles.
Oui, j'avais ma grand-mère.
Votre grand-mère.
Ma grand-mère qui était comme ça, oui.
Ouais. Et votre mère, non, en revanche.
Ou maman,
votre père.
Non. Ouais. Non, maman, non.
Renaud Évrard.
Elle m'appelle Madame Soleil, elle se moque un peu de moi parce que.
C'est vrai?
Oh oui, oui.
Ouais. Renaud Évrard, avec ce que vient de nous dire Micheline, ça ouvre d'autres perspectives, j'imagine, non? Ça permet de mieux comprendre, peut-être.
Ben, je sais pas, parce que effectivement, il y a cette notion d'être quelqu'un de sensible. C'est à double entrée. Hein. On est sensible aux autres avec par empathie, et on a parfois comme ça peut-être des phénomènes paranormaux, de télépathie, avec des gens qui nous sont très proches, des choses comme ça. Mais après, si on veut vraiment faire une analyse, il faut de toute façon prendre au cas par cas, expérience par expérience. Et là, sensibilité ou pas, ça ne permet pas vraiment d'accréditer la réalité du phénomène. Bon, alors je sais pas trop justement s'il faut passer par cette analyse, parce que il y a plein d'expériences finalement qui forgent un trait de personnalité, un caractère, mais bon, on s'imagine tous les hypothèses rationnelles, naturelles qu'on pourrait trouver, être sceptique comme l'a été la veuve et votre mère,
oui.
Micheline, tout à fait, quoi, sur cette expérience la nuit, dans une chambre que vous connaissez pas, dans un lit que vous connaissez pas, de revivre, enfin, cette impression d'avoir des poids dans le lit, on retrouve à la fois dans des cas de personnes qui disent vivre ça dans des cas de poltergeist, mais ça peut tout à fait être une impression, c'est jamais vraiment sûr.
Ouais.
Et puis le fait de sentir une odeur, c'est quelque chose qui est très très prenant, parce que c'est toujours très marqué. C'est pas l'odeur de n'importe quoi, de n'importe qui.
Mais je vous dis, ça me l'a refait avec une autre personne.
Mais effectivement, il y a aussi des hallucinations, on peut aussi parler d'hallucinations olfactives en fait. C'est-à-dire que les odeurs sont non seulement des stimuli qui arrivent à l'extérieur, mais ce sont aussi des choses qu'on a enregistrées, qu'on arrive à recréer, notre cerveau recrée des odeurs, ou en tout cas la perception de certaines odeurs. Et donc dans ce cas-là, on n'est jamais sûr que ce soit pas non plus ce qu'on appelle hallucination.
Renaud, voilà. En ce qui concerne cette histoire de cheval...
Ah oui, ben, et voilà,
là, au cas par cas, on a effectivement
c'est très prenant, une sorte de certaine synchronie, c'est assez ciblé vu que c'est les douleurs à l'estomac, un coup fort, et donc oui, effectivement, ça semble tout à fait pas probant, mais bon, voilà, je sais pas trop ce qu'attend Micheline finalement, à part témoigner justement d'une pléthore de phénomènes.
Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose d'extraordinaire, de vécu entre cet animal et vous, où il y avait un lien extrêmement fort. Enfin, je veux dire, on n'a pas un cheval pendant 20 ans comme ça, quoi. Pierre Mathias, qu'en pensez-vous?
Oui, Renaud a raison de dire qu'il faut analyser chacune des expériences cas par cas. Il faut arriver à dégager la généralité, à dégager le cas particulier, ce qu'on peut inclure dans ce qu'on peut considérer du psy ou ce qu'on doit rejeter par manque d'éléments, même si éventuellement c'est du psy, par manque d'éléments, ou alors parce que c'est simplement pas du psy. Oui. Dans le cas de Micheline, ce rapport à son cheval, c'est une symbiose entre elle et l'animal.
Bien sûr.
C'est un discours, c'est un vécu que on va rencontrer dans les témoignages spontanés, mm-hmm. et qui donc aurait tendance à montrer un lien affectif, un lien psy, éventuellement entre le cheval et Micheline. Mm. Et tout ça, ça me ramène cette notion de psy chez Micheline, qui a l'air effectivement assez sensible. Ça me ramène à sa première histoire de l'appartement.
Ouais. Oui. Donc dans mais ce... je vous dis, si je vous
bien sûr,
je ne sais pas trop. Voilà, j'avais acheté une caravane à quelqu'un et bon, un ami que nous connaissions très très bien qui est décédé également, et j'ai également eu la présence, mais là je l'ai vu. Comment il était habillé, tout fugitivement. Quelques secondes, je l'ai vu ici, chez moi. Et lorsque nous sommes allés dans la caravane que nous lui avions achetée une année avant, quoi. Mmh. En plus, là, je n'étais pas seule. Je dormais en compagnie de ma petite fille, qui avait 7 ans à l'époque. Et là, également, j'ai eu cette impression de poids qui se couche sur le lit. Mmh. Mmh. Donc, ça me l'a refait une deuxième fois. Mais je vous dis, j'ai souvent de ces trucs comme ça, quoi.
Moi, enfin, allez-y, terminez, Pierre, votre analyse. Après, je livrerai mon sentiment.
Oui.
Oui. Donc...
Encore d'autres, je vous dis.
Oula. Oui, mais Micheline, malheureusement, le temps passe aussi.
Je sais, c'est pourquoi je vous dis, ce serait trop long.
Oui. Mais même dans une vision, la vision de quelqu'un d'une silhouette ou quelqu'un qui paraît encore plus tangible. Comme disait Renaud, le cerveau a des facultés pour le moins extraordinaires qui vont permettre à quelqu'un de reconstruire des odeurs, de reconstruire une visualisation, de donner corps à un ressenti. Le ressenti est fort, il va s'exprimer par une vision, mais on va rester, je resterai au niveau du psy. Ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de l'appartement, donc la silhouette, oui, que vous avez vue au pied du lit, on peut l'assimiler à cette silhouette de la caravane, cette silhouette plus manifestement qui vous a paru plus tangible.
Mm-hmm. La deuxième fois, oui, c'était, oui, vraiment, oui, comme, mm-hmm, si je croisais la personne dans mon couloir, quoi.
Oui, c'était plus clair. Là, c'était vraiment, oui.
Mais alors, quoi.
Mais tout ça, ça peut tout à fait être votre manière de prendre conscience du ressenti que vous avez. Et dans un cas, alors chez les sujets, aussi bien les sujets étudiés en laboratoire que les gens sur le terrain, dans la vie courante, quand on rencontre une faculté psy. De l'ordre de l'ESP, de l'ordre de la clairvoyance ou de la prémonition, les gens ont rarement une seule faculté, mais oui, ils vont développer ce qu'on peut appeler un global ESP, c'est-à-dire un psy global qui va de temps en temps leur faire de la télépathie, de temps en temps va leur donner accès.
Exactement,
à la clairvoyance.
Parce que je sais quand on va m'appeler au téléphone.
Voilà, il peut y avoir ce genre de choses aussi. Donc,
oui.
Tout ça fait partie d'une sensibilité globale du psy. Et dans le cas de l'appartement, par exemple, ça peut très bien être une post-cognition qui a été déclenchée à un moment où vous êtes déjà sensible à l'état de base. Dans un appartement dans lequel il s'est passé un événement ou relatif à un événement grave,
mm-hmm, Micheline l'aurait senti.
Voilà, une faculté, ouais, de post-cognition, on parle, mm-hmm, de prémonition, de précognition.
De voyance à l'envers, quoi, de voyance sur le passé, c'est ça?
De voyance sur le passé, disons, à la limite, oui.
D'accord, ok. Pour bien comprendre.
Post-cognition, ouais, c'est dans le passé, clairvoyance, ouais, c'est maintenant,
ouais,
et prémonition, donc c'est dans le futur.
D'accord, ok.
Donc, avec l'apparition d'une post-cognition, vous avez pu prendre connaissance de ce décès dans l'appartement, ou relatif à cet appartement, sous la contrainte, je dirais, d'événements familiaux, comment dire, aléatoires, enfin, qui sont apparus là, ils auraient pu apparaître à un autre moment.
Oui, ça c'est sûr, oui.
Ma chère Micheline, malheureusement, nous allons conclure avec vous, mais en tous les cas, je vous remercie vraiment de nous avoir comme ça livré toutes ces choses que vous avez vécues. À titre de conclusion, si je puis me permettre, je pense comme Pierre que vous avez cette sensibilité et que de manière inconsciente, c'est vous qui provoquez ces phénomènes paranormaux.
Je me le suis déjà dit, oui.
Et,
ça.
Et vous en vivez d'autres après qui viennent de l'extérieur, évidemment. Mais il faut vivre avec cette sensibilité que vous avez, qui est beaucoup plus forte que chez d'autres personnes. Ça, voilà.
D'accord, je vous remercie.
Mais c'est moi qui vous remercie, ma chère Micheline. À très bientôt, j'espère.
Je l'espère. Je vous écoute toujours avec attention.
C'est très gentil. Et puis surtout, on vous souhaite, Renaud, Pierre et moi, de très belles fêtes de fin d'année.
Moi également pour vous. Merci infiniment encore.
Un très joli Noël. Gâtez pas trop vos petits-enfants.
Merci.
Et bonne fête. Au revoir.
Bonne soirée.
Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi. Sur Sud Radio.